On continue de parler de Patient Zéro et on est en ligne avec Luc Perrineau. Bonjour Luc, vous êtes médecin, écrivain, essayiste, diplômé de médecine tropicale et d'épidémiologie. Vous êtes auteur de Patient Zéro aux éditions de La Découverte. Soyez le bienvenu.
Bonjour.
Quelle est la définition d'un patient zéro ?
Alors, le patient zéro, c'est celui, par définition, qui inaugure une série. Alors, classiquement, on cherchait les patients à l'origine, surtout des maladies génétiques, hein, pour savoir où, dans quelle région était apparue cette maladie. Et puis, évidemment, c'est surtout dans les maladies infectieuses qu'on a toujours recherché le patient zéro. Lorsqu'il y avait les épidémies, on cherchait quel était le bateau, de quel port était venue l'épidémie et d'où venait le bateau, de quel pays venait le bateau qui avait amené la peste, par exemple. Donc, on a toujours recherché l'origine des épidémies. Mais les médecins avaient plutôt tendance à parler de ce qu'on appelle le cas index, c'est-à-dire le premier cas d'une maladie génétique ou infectieuse.
On a commencé à beaucoup entendre parler du patient zéro, justement, à l'époque du sida.
Voilà, alors c'est en fait un journaliste qui a utilisé ce terme au sujet d'un des malades qui est les plus connus du sida, qui était Gaëtan Dugas, et qui, on supposait à l'époque, en 80, à la fin de l'année 80, on supposait que c'était lui qui avait introduit le sida. On ne supposait pas, on avait les preuves que c'était lui qui avait introduit le sida aux États-Unis. Et bien sûr, par la suite, on a compris qu'il y en avait eu beaucoup d'autres et que le sida venait d'autres pays auparavant.
À quoi ça sert concrètement de déterminer le patient zéro, qui est un peu la quête de cette bande dessinée d'Ariane Chemin?
Ça, c'est d'abord un objet de science. Hein. Mm-hmm. On cherche toujours à savoir d'où vient une maladie, sans chercher forcément quel est le premier patient qu'il a eu. On cherche à comprendre toujours la physiologie, la physiopathologie d'une maladie, qu'elle soit génétique ou infectieuse. Et dans cette recherche, effectivement, connaître l'origine est toujours très intéressant, l'origine géographique ou l'origine chez un patient. Donc, alors dans le cas des épidémies, c'est intéressant effectivement parce qu'on peut savoir comment a eu lieu l'épidémie, est-ce qu'elle s'est propagée à partir d'un animal, est-ce qu'elle est venue par la mutation d'un virus que l'on connaissait déjà, etc.
Ça peut aider à stopper ou à ralentir en tout cas la propagation, parce qu'on a l'impression que dans la bande dessinée là, cette recherche faite l'année dernière, c'était pour essayer d'encercler un peu ce virus.
Alors, plus on comprend l'épidémiologie, donc plus on la comprend, plus on va trouver des moyens de la ralentir. Hein. C'est logique. Si on sait que, par exemple, telle région est un foyer riche, eh bien, on va essayer de limiter les déplacements autour de cette région. C'est ce qu'on faisait déjà à la peste. On construisait des murs pour empêcher les gens de circuler. Donc, dès que vous avez une meilleure connaissance épidémiologique, vous pouvez effectivement prendre des mesures en conséquence. Hein. Donc, c'est toujours utile.
Alors, votre livre, Luc Perrineau, Patient Zéro, est sorti le 12 mars 2020.
C'est un hasard.
Alors là, c'est en termes de timing.
Ce terme, pardon, je vous ai coupé. Ce terme était presque inconnu de tout le monde auparavant.
Oui.
Et au moment, donc ce livre, je l'écrivais, je l'avais en écrit depuis longtemps. Je colligeais des histoires de Patient Zéro, justement, ça m'intéressait. Et donc, avec mon éditeur, on a décidé de le sortir en mars. Et à ce moment-là, c'était amusant parce que tout le monde s'est mis à parler du Patient Zéro, terme que presque tout le monde ignorait. Donc, bon, le titre de mon livre, mais ça n'était pas un livre opportuniste, hein, je le précise.
Ça, c'est pas possible en sortant le 12 mars.
Vous vous sentez un peu responsable de cette pandémie?
Vous vouliez rendre hommage, en fait, Luc Perrineau, dans votre livre, aux patients aussi qui ont aidé la science et la médecine, parce que on parle beaucoup des médecins, on parle pas beaucoup des patients.
Voilà, alors c'était l'idée de départ. J'aime beaucoup l'histoire de la médecine. Et donc, quand vous lisez l'histoire de la médecine, on vous décrit les grands chercheurs, les grands savants, tout ce qu'ils ont trouvé. Et on oublie les patients pour plusieurs raisons. D'abord parce que, effectivement, ils sont moins intéressants souvent que les chercheurs, mais surtout parce qu'on ne connaît pas leur nom.
Oui.
Ils sont donnés par des initiales. Et en fouillant, vous trouvez qu'il y a vraiment des patients qui ont fait faire des grandes découvertes à la médecine, des très grandes découvertes, et que sans eux, aucun chercheur n'aurait rien trouvé. Il fallait d'abord qu'ils existent, ces personnes-là. Et j'ai trouvé qu'effectivement, il fallait écrire l'histoire de la médecine un peu à l'envers, et leur rendre un hommage. Donc j'en ai choisi quelques-uns, il y en a plusieurs, j'en ai choisi 25-26, et j'écris ces histoires qui sont c'est pas des fictions, c'est des histoires vraies qui sont plus originales que beaucoup de fictions. Quoi.
Alors on sait les dégâts qu'ont causé en fait à Gaëtan Dugas, par exemple, pour le VIH, le fait d'être affiché comme ça à la une des journaux américains, c'est aussi un poids très très lourd quand on identifie le patient zéro et qu'on l'expose comme ça, c'est une responsabilité grave.
Oui. c'est la chasse aux sorcières, hein, qui a toujours existé, bien sûr. Et dans le cas du sida, c'est encore pire, puisqu'il y avait une, donc, on montrait du doigt la vie des homosexuels ou des drogués, c'était affreux. Donc, il y avait effectivement une diabolisation de ces personnes. Et lui, particulièrement, il en a certainement beaucoup souffert. C'est pour ça que très souvent, les médecins, quand ils ont un doute sur l'origine d'une épidémie, ils ne donnent jamais de nom. Ou bien, sur une maladie génétique, les médecins mettent souvent des initiales. Hein. Il y a le patient KC ou le patient HC pour qu'on ne les montre pas du doigt, évidemment.
Vous pouvez nous donner un autre exemple de patient zéro célèbre que vous traitez dans votre livre ?
Ah ben, il y en a plusieurs. Je me suis amusé à écrire le cas d'une maladie génétique qui a touché toute une famille, et c'était une maladie qui était due à un gène particulier, hein, qui s'appelait le gène FOXP2, que cette maladie donc s'est transmise. Et ce gène FOXP2, on a compris grâce à cette famille que c'était un gène très important dans l'apparition de la parole chez Homo sapiens. Alors c'est pas le seul, bien sûr, mais ça a fait faire de grandes avancées sur cet aspect de l'hominisation, ce qu'on appelle pour la parole. Voilà, c'est un exemple entre autres. Et sans cette famille, on n'aurait jamais compris ça.
Vous parlez aussi de Marie Malone, dit Marie Typhoïde. Alors, cette recherche-là, ouais, c'est un petit surnom sympa. C'est pas mal. Ça peut être un avatar sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. La recherche, on le voit dans la bande dessinée aussi d'Ariane Chemin, la recherche du patient zéro, c'est une véritable enquête. Le médecin devient une sorte de détective. Ça ressemble vraiment à ça, une enquête de police.
Ah ben, l'épidémiologie, c'est vraiment une enquête de terrain, hein. C'est un peu différent de la médecine, j'allais dire clinique, c'est vraiment une enquête de terrain, on cherche à comprendre. Et alors, ce qui a fait faire les grands progrès à l'épidémiologie, c'est évidemment la génétique et la génomique, hein. C'est-à-dire maintenant, on arrive à regarder quel est le virus qui ressemble à tel virus animal, et on suppose qu'il y a pu y avoir une transmission entre cet animal et nous. Donc la génétique nous fait remonter beaucoup d'années en arrière. D'ailleurs, la paléo génétique qu'on fait maintenant nous fait remonter à l'origine de certaines maladies chez l'homme préhistorique. Donc c'est très intéressant, hein, effectivement, de faire cette recherche. C'est une véritable enquête policière, comme vous dites.
Et alors, justement, quand il s'agit de génétique, c'est peut-être un peu différent, mais quand il s'agit de virus, comment on est sûr de vraiment retrouver le bon patient zéro ?
Ah ben, ce que vous venez de dire, c'est quand on parle du virus, on fait la génétique du virus. En
d'accord.
Fait. Si ce que l'on recherche, c'est ce virus que l'on a donc cartographié, dont on connaît la carte génétique parfaitement, on cherche à voir où il est apparu pour la première fois chez lesquels on a fait les analyses virologiques. Hein. Donc ces malades-là, on remonte. Et on voit que là, bah, dans cette zone-là, il y a eu beaucoup de patients avec ce virus, donc on imagine que c'est un foyer. Et puis après, on essaye de remonter plus haut, voir quel est l'animal chez lequel on a détecté un virus qui est à peu près similaire. Donc au début, on a cru que pour cette épidémie, c'était le pangolin, mais on sait aujourd'hui que ça n'est pas ça. Quoi? Il est possible d'ailleurs qu'il y ait plusieurs réservoirs de mammifères.
Alors justement, on sait quoi aujourd'hui, pardon de vous avoir interrompu, docteur Perrineau, mais on sait quoi concernant le patient zéro du Covid? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
Alors, il y a au moins une certitude, enfin, rien n'est jamais certain définitivement, mais il est très très probable qu'il ait apparu dans la région de Wuhan en Chine. Ça. Alors maintenant, c'est déjà contesté. Apparemment, il serait apparu dans d'autres régions du monde avant, donc mais de façon moins le foyer n'était pas important. Donc voilà, on sait qu'au moins le foyer d'Wuhan a été un foyer important de dissémination, mais probablement pas le premier. Mais c'était le premier qui a permis, grâce au vol, aux avions, bien sûr, hein, à se répandre dans le monde, puisque la Chine est un pays très peuplé avec beaucoup de voyages intercontinentaux. Donc la diffusion est partie de là, la grosse diffusion est partie de là. Mais il est probable qu'on va remonter plus haut. Et le but, c'est de trouver surtout quels sont les réservoirs animaux de ce virus. C'est ça l'important, en fait. Et donc, on connaît l'intermédiaire qui est probablement une chauve-souris. Hein. La chauve-souris est un très bon intermédiaire parce que les cellules des mammifères se ressemblent, donc les virus peuvent s'accrocher à ces cellules, plus particulièrement certains virus. Et pourquoi la chauve-souris? Parce que c'est le seul mammifère volant. Hein. Vous avez des virus qui sont transmis par des moustiques, par exemple, d'homme à homme ou d'animal à homme, et là, c'est par la chauve-souris qui dépose les virus sur les fruits. Donc on va sans doute trouver d'autres animaux, hein, que le pangolin, et on essaiera d'aller encore plus loin, bien sûr.
Merci beaucoup, c'était passionnant, ouais, Luc Perrineau. Je rappelle, Patient Zéro, sorti donc le 12 mars 2020, c'est aux éditions La Découverte. Merci d'avoir été avec nous.